Nous sommes heureux de vous retrouver en cette fin de week-end comme chaque dimanche. Bien sûr, il est l'heure de votre émission humanitaire Faboudirène. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'entraide à travers des bonnes informations. Place au titre.
La consommation des stupéfiants inquiète de plus en plus. Un phénomène qu'il faut vite freiner pour le salut humanitaire des futures générations.
Qu'est-ce qui explique cette situation ? Quelles sont les conséquences ? Comment remédier à la prise des stupéfiants ? Pour en parler, nous sommes avec M. Bourama Sangari, psychologue clinicien.
Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Ce proverbe africain sera expliqué par un traditionnaliste au cours de ce numéro.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Cette émission vous sera présentée par Draman et...
Mariam Maïga.
La technique est assurée par Ibrahim Sanogo. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Draman.
Tu as manqué à cette émission.
En tout cas, je suis de retour, ravie de vous retrouver après une si longue absence. Draman, je t'ai manqué?
Trop même. Trop.
D'accord,
tu as manqué aux auditeurs et auditrices.
En tout cas, je suis ravie de revenir sur le plateau, ravie de vous retrouver, ravie de vous informer.
Un plaisir grandement partagé. Mariam, comme on le disait tout de suite, nous allons parler aujourd'hui de la consommation des stupéfiants qui devient de plus en plus une habitude chez les jeunes et autres couches de la société.
Effectivement, pour certains, cela découle de plusieurs facteurs, notamment l'angoisse, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé, entre autres.
Cependant, des spécialistes de santé estiment que ce phénomène pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine.
C'est le thème de notre magazine d'aujourd'hui et c'est une présentation de Hamsetou Gogo Touré.
En fait, j'ai eu une enfance très difficile. À cause de ça, j'ai commencé à prendre ces médicaments pour diminuer un peu mes consommations de manger. Mes amis me disaient que c'est bon.
En prenant la drogue, ça te donne de l'énergie, l'inspiration et tu n'as pas les mêmes pensées que les autres.
Il me manque beaucoup de choses, c'est pourquoi je consomme. Les gouvernements ne nous considèrent pas aussi. On n'a pas du travail. C'est difficile d'abandonner.
Quand tu consommes de la drogue, tu n'as plus peur. Nos parents n'ont plus de temps pour nous. Mon père sort le matin et c'est tard dans la nuit qu'il rentre. Il ne peut pas me contrôler. On fait ce qu'on veut, comme boire de l'alcool et plein d'autres trucs. Beaucoup de jeunes filles sont comme nous aujourd'hui.
Il suffit d'écouter ces jeunes rencontrés à Bamako pour comprendre que la consommation de la drogue prend de l'ampleur. Certains décident de prendre les stupéfiants pour se détendre, vivre une expérience commune avec des amis, avoir du plaisir ou apprécier une occasion spéciale. D'autres rejettent la faute sur leur famille, mais des parents estiment que tout enfant est l'image de sa famille. Pourtant, ces derniers rejettent également la faute sur les réseaux sociaux qui compliquent pour eux l'éducation des enfants. Des parents réagissent à Koutiala, Bamako et Bafoulabé.
La situation elle est très préoccupante. Beaucoup de jeunes tombent dans ça. Pour certains, c'est de façon délibérée. Pour certains, ils vivent dans ce domaine sans eux-mêmes s'en rendre compte. Les jeunes doivent savoir qu'on peut être jeune sans pour autant être dans ce genre d'attitude. On peut réussir sans passer par ça.
Les enfants, toujours, ils sont là à regarder les feuilletons dans ces films-là. Les côtés positifs-là, il n'y en a pas beaucoup.
Parce qu'on ne suit pas les mouvements des jeunes, ce qui laisse à déplorer. Pour qu'on accélère la surveillance au niveau des grains, des écoles, nous assistons maintenant à beaucoup de produits stupéfiants, qu'ils soient en comprimés, en injectables, partout, même dans les brousses.
Des sociologues ajoutent que la consommation des stupéfiants est due à des facteurs de société. Mamadou Guissé, sociologue à Ségou.
Dans certains milieux, les gens pensent que souvent, tu ne peux pas être apprécié, cultivé dans les localités sans qu'ils te trouvent. Au moins, c'est stupéfiant. Certains, pour avoir l'argent, commencent de l'achat et vendre cela. C'est un passé aussi que quand vous menez certaines activités, en consommant ces produits-là, que ça peut te donner un certain dynamisme. Non, je dis environnemental aussi. Certains seront impactés des influences de leurs voisins. La conséquence, elle est vraiment pluridimensionnelle. Vous voyez aujourd'hui l'agression physique aujourd'hui dans les foyers. Souvent des comportements incestes, des relations entre X, Y, les actes de circulation, généralement, c'est dû à des stupéfiants. Il faudrait qu'il y ait une reconscientisation générale. C'est de la jeunesse. Qu'il y ait l'implication, franchement, des autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses.
Docteur Amadou Maïga, psychologue, préconise une étude pour déterminer les causes. Selon lui, la communication entre parents et enfants doit être privilégiée pour freiner le phénomène.
Dans ce problème, il faudra comprendre d'abord les causes, tenir compte même du développement psychique de l'enfant, savoir si c'est un enfant pathologique ou normal, et à partir de là-bas, essayer de sensibiliser les parents en les informant de quelle est la conduite qu'ils doivent tenir envers ces enfants. Une des premières conduites d'abord, c'est d'essayer de contacter les centre d'éducation et de rééducation, ce centre pourra bien aider les parents en ce sens. Bon, ce ne sont pas les punitions qui vont résoudre le problème, mais c'est la compréhension.
Mais attention, sur le plan sanitaire, la consommation des substances illicites a des conséquences. Docteur Mahamadou Kone, psychiatre praticien au CHU du Point G.
Il y a deux grandes catégories de conséquences que nous appelons complications. Sur le plan psychiatrique, il y a les réactions psychotiques aiguës, des situations de troubles qui disparaissent entre 24 à 48 heures, soit les problèmes de confusion mentale, surtout ceux qui consomment la cocaïne, l'amphétamine, aussi le syndrome dépressif. Le deuxième groupe, la pharmacopsychose, c'est-à-dire les substances provoquent ces troubles, vont continuer à évoluer à des troubles mentaux chroniques. Il y a les complications organiques. On peut citer overdose, pneumopathie dermatologique, neurologique.
La prise en charge est pluridisciplinaire selon Dr Kone. Et comment se fait le sévrage? Écoutons ses explications.
Le sévrage, c'est seulement la désintoxication. Cela commence par un entretien motivationnel. Cet entretien motivationnel s'impose quand le patient commence le traitement et qu'il est décidé à continuer le traitement et qu'il adhère aux différentes stratégies de changement spécifiques.
Cela peut se faire à la maison, en ambulatoire, comme ça peut se faire dans un milieu hospitalisé. Cette phase peut prendre quelques semaines. Il y a le long travail d'accompagnement vers la récupération.
Les enfants sont l'avenir d'une nation. De ce fait, leur assurer une éducation de qualité demeure une des plus belles choses.
Une réalisation de Khalifa Goïta avec la voix de Hamsetou Gogo Touré, le concours de nos correspondants David Koulibaly à Koutiala, Mohamed Sissé à Ségou et de Moussa B. Sidibé à Bafoulabé. Mariam, la consommation du stupéfiant devient un problème de santé publique.
Un triste constat et les conséquences sont énormes sur la santé mentale mais aussi sur la santé physique et sociale des consommateurs. Mais qu'est-ce qui explique cette vague de consommation?
Pour répondre à cette question et bien d'autres, nous avons tendu notre micro à M. Bourama Sangari, psychologue clinicien. Suivons ensemble la première partie de notre échange.
Selon vous, qu'est-ce qui explique l'ampleur que prend la consommation des stupéfiants ces derniers temps?
Aujourd'hui, à notre niveau, en matière de santé, on dit que la consommation des stupéfiants est un problème majeur de santé publique. Cela veut dire quoi? Plusieurs études ont été menées et ça a été constaté que la consommation des stupéfiants ou des drogues, la prévalence, le nombre de consommateurs s'est beaucoup accru ces derniers temps, ce qui fait vraiment peur. Alors, quels sont les facteurs qui ont entraîné? Il y a plusieurs facteurs. L'accessibilité des stupéfiants par la population générale. Les stupéfiants sont des produits, il peut s'agir de médicaments qui doivent même être officiellement prescrits par un médecin, mais ça peut être aussi des produits naturels ou autres types de drogues, mais qui sont accessibles partout. Ça, c'est un facteur important qu'il faut signaler. Ensuite, la prolifération de ces produits. On ne saurait pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, mais ces produits se prolifèrent de jour en jour. Un autre constat, c'est surtout la délinquance juvénile. Plus les jeunes deviennent délinquants, donc ils s'adonnent à des comportements de consommation des toxiques. Il y a aussi l'influence des pairs. Des pairs, c'est-à-dire des camarades d'âge entre eux. Quand un groupe se met à consommer la drogue, même d'autres qui ne consomment pas, ils sont très sensibles à les affecter. Donc c'est un comportement aussi qui peut être contagieux. Autrement dit, les consommateurs ont tendance à faire intégrer les non-consommateurs dans les groupes. Aujourd'hui aussi, le constat qui est très pertinent et qui fait vraiment peur, ça c'est surtout pour les jeunes adolescents. C'est-à-dire qu'ils vont de 15 à 20, 25 ans comme ça. Là aussi, cela pourrait s'expliquer par un relâchement de l'éducation familiale. Il y a des parents aujourd'hui sont plus préoccupés par la recherche du gain que de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et là, c'est un risque majeur, puisque les enfants sont là, ils ne sont pas contrôlés, donc ils sont laissés à eux-mêmes. Ce relâchement contribue beaucoup à la consommation de drogue. À cela, ce que nous pouvons citer aussi, Ce que certains oublient souvent, c'est vraiment des troubles psychologiques. Il y a des gens qui consomment parce qu'en réalité, ils ont des troubles psychologiques. Ils ont des angoisses, ils ont des problèmes personnels qu'ils vivent seuls et ceux qui savent. Ils pensent qu'il vaut mieux prendre les toxiques. Donc, ils préfèrent noyer leur souffrance dans les toxiques. Là aussi, c'est un facteur important.
Si les jeunes ont accès aux stupéfiants, les jeunes en consomment, ça a forcément des conséquences. Quelles sont les conséquences de la consommation des stupéfiants?
Merci encore, M. Maïga, par rapport à cette question. Les drogues ou les stupéfiants ont des conséquences majeures. Tout d'abord, sur la santé. Et si nous prenons la santé, le premier organe à payer les frais, c'est au niveau mental. Il faut également comprendre qu'en réalité, les stupéfiants constituent un grand problème pour la stabilité mentale d'une personne. Plus la personne a tendance à consommer la drogue, et plus il est en risque de développer une maladie mentale. Les dépressions, les angoisses, même les troubles psychotiques, c'est-à-dire qu'ils font perdre carrément la conscience, parce que là, certains, après avoir consommé, peuvent faire des comportements qu'un malade mental fait. Donc là, on va parler des troubles, des réactions psychotiques d'origine toxique. Mais autrement dit, il y a aussi d'autres qui vont même déclencher un tableau clinique. C'est-à-dire que la maladie mentale va rapidement se déclencher quand il consomme la drogue. Dans ces cas, la personne avait déjà la maladie, mais qui ne s'est jamais manifestée. Donc elle attendait une occasion pour se déclencher. Là, c'est la drogue qui est devenue un facteur déclenchant de la maladie. Donc on peut dire que c'est la drogue qui est associée à cette maladie mentale. Même en dehors de tout cela, une personne qui consomme la drogue de façon continuelle, alors tôt ou tard, court le risque de tomber dans une maladie mentale, souvent neurologique, voire souvent purement psychiatrique. Donc la drogue est l'ennemi majeur de la santé mentale. Ensuite, par rapport à la santé physique, il est démontré quand même que la drogue est associée à plusieurs maladies, et du point de vue physique, même les maladies cardiovasculaires. Parce qu'il y a des drogues, quand on les prend, surtout, il y a des classes qui accélèrent le fonctionnement du cœur. Donc, plus la personne consomme ces drogues, donc le cœur est en fonctionnement rapide, en permanence, en fonction des degrés et de la fréquence de la consommation. Finalement, il va avoir des maladies cardiovasculaires, voire même des maladies sexuellement transmissibles, VIH. Pourquoi? Parce que même les modes de consommation, il y a des groupes qui consomment en se partageant avec les mêmes objets, soit en se piquant avec la même seringue. Pour prendre la drogue en fonction de leur mode de consommation. Là, ils peuvent se transmettre sans s'y rendre compte. La perte de la conscience des risques. Sous l'effet de la drogue, certains vont prendre des comportements sexuels à risque, non protégés. Donc tout ça, c'est des facteurs de santé liés à la consommation des stupéfiants d'une manière ou d'autre.
Est-ce que la consommation de drogue fait passer les problèmes comme le pensent certains?
C'est vraiment un stéréotype selon lequel beaucoup de gens pensent que consommer la drogue est la solution au problème. En réalité, la drogue n'est pas la solution au problème. La drogue est d'ailleurs un facteur qui a tendance à compliquer les problèmes. Parlant des conséquences que nous venons de dire, sur le plan de la santé mentale et physique, et sur le plan surtout social. Une personne qui consomme la drogue, on peut dire, n'a pas de revenus. Et ça va dépendre du niveau, du degré, de la fréquence de la consommation que la personne prend, que la personne utilise. Fréquemment, on a tendance à dire que celui qui consomme les drogues ou les stupéfiants vit par la drogue et pour la drogue, avec des problèmes personnels ou autres problèmes que ce soit. Donc, la personne qui pense que la drogue est la solution, après avoir consommé la drogue, pendant un moment, les angoisses vont s'apaiser. Mais la drogue a une durée d'action. Une fois que la durée d'action est déjà partie, donc les effets ne vont pas partir. Les effets vont rester. Quand les effets reviennent, donc la personne a tendance à renouveler, puisqu'en réalité, elle cherche refuge dans la drogue. C'est là où on va parler de l'état de manque. Donc en cherchant à fuir un problème, un autre problème vient s'installer, notamment la dépendance à la drogue. Avec la dépendance, la personne n'aura plus de revenus. Obligé d'aller dépenser tout ce qu'il trouve dans les drogues. La drogue va entraîner dans ces cas non seulement un problème de dépendance, mais aussi un problème socio-économique. économique, puisqu'il ne va pas se comprendre, les gens vont se plaindre de lui.
C'était là la première phase de notre discussion avec M. Bourama Sangaré, psychologue clinicien.
Et ce que j'ai aimé Dramane, c'est qu'il a résumé les causes de ce phénomène qui fait des victimes. Et ce que je retiens davantage, c'est surtout que la consommation des stupéfiants n'y résout aucun problème.
Au contraire, Mariam, elle empire la situation. Mais malgré cet état, certains estiment que ça leur donne du tonus pour mieux faire leurs différents travaux.
Tristement, Dramane, comme tu viens de le dire, il y a des personnes qui pensent que les stupéfiants leur donnent la force pour mieux mener leurs activités.
Parmi ces personnes, des conducteurs qui font les longs trajets. Ce qui nous mène vers ce reportage de Mamadou Samasekou.
Que ceux qui consomment des stupéfiants juste avant de conduire cessent, parce qu'ils peuvent être source d'accidents.
Comme cette dame qui voyage régulièrement, de nombreux passagers affirment accorder beaucoup d'attention au comportement des chauffeurs qui les conduisent sur de longues distances.
Je suis chauffeur sur l'axe Bamako-Kayi. Sous l'effet de la drogue, notre capacité de travail se multiplie. Mais cela peut causer des graves ennuis sur la route. Pour éviter de somnoler au volant, certains chauffeurs se servent du café noir ou du thé. Quant à moi, je prends juste de l'eau.
Le syndicat des transporteurs routiers urbains et interurbains Saint-Rouy regrette cette attitude de certains employés. Issaka Diakité, vice-président du Saint-Rouy.
Ceux qui sont pris en faute sur les trajets, automatiquement on fait recours à un nouveau chauffeur qui peut amener les passagers à leur destination. Si c'est les véhicules de transport marchandises, nous sommes obligés de faire stationner le véhicule et informer le propriétaire pour qu'il prenne les dispositions nécessaires.
Les responsables du Saint-Rouy ajoutent qu'en plus de ces dispositions, des éléments de l'Agence nationale de la sécurité routière sont déployés sur plusieurs axes routiers pour contrôler le respect du code de la route.
Des accidents de circulation, une des conséquences de la consommation des stupéfiants, Mariam.
Effectivement, les témoignages des usagers suffisent pour interpeller et alerter les autorités compétentes sur la question.
Comment faire face à ce phénomène? Des réponses à venir dans la deuxième partie de l'intervention de M. Bourama Sangaré, psychologue.
Que pensez-vous d'abord de ce reportage?
Je pense qu'en réalité, cela met surtout l'accent sur le comportement de certains conducteurs au volant, qui consiste à prendre un stupéfiant en vue d'accélérer ou de prolonger leur vigilance. Parce qu'en réalité, c'est des gens souvent, pour surpasser leur propre capacité, qu'on veuille ou pas, on sent la fatigue. Dirait dans le travail, certains pensent qu'il faut prendre les stupéfiants. Et cela est principalement la cause de plusieurs accidents qui causent de nombreuses victimes.
Une transition tout trouvée pour notre prochaine question, qui est comment aider ces personnes à ne plus être accrochées aux stupéfiants.
Effectivement, les personnes qui sont dans la situation de dépendance peuvent recevoir de l'aide. Aujourd'hui, nous parlons surtout de l'accompagnement. L'accompagnement vers le sevrage, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent quitter la consommation des stupéfiants. Cela est possible, mais en réalité, le problème fondamental est que cela dépend fortement de la motivation des consommateurs eux-mêmes. Il faut que la demande vienne d'eux-mêmes. Actuellement, le sujet reconnaît qu'il est effectivement dans la consommation, il est dépendant et il veut se débarrasser. Maintenant, il va recevoir de l'aide des personnes et des ressources spécialisées. C'est cette motivation qui souvent est très difficile. Parce que quoi que vous fassiez, lorsque la personne n'est pas motivée à aller vers le sevrage, c'est difficile. Souvent, c'est ce que les cliniciens sont le plus souvent confrontés à ces problèmes. Et il y a des parents aussi qui ne comprennent pas. Je pense que peut-être les traitants ne sont pas doués ou bien n'arrivent pas à prendre en charge efficacement. Alors qu'en réalité, ça dépend de la volonté. On fait un travail sur la motivation. Qu'est-ce qui les motive en réalité à prendre cette décision? On insiste d'abord sur ça. Et on a même tendance à prendre un engagement signé par et les cliniciens et les parents et les consommateurs lui-même, selon lequel il s'est engagé aujourd'hui devant tout le monde à se débarrasser de la drogue. Et maintenant, nous allons lui proposer des aides. Si la personne est déjà dépendante, alors il faut quand même un sevrage. Et le sevrage, pourquoi le sevrage? Parce que l'absence de la drogue n'est pas tolérante. Il va avoir des problèmes de santé. Donc il faut un accompagnement par un psychiatre également qui va prescrire un médicament qui ne va pas remplacer ses produits, mais qui va agir, qui va faire taire d'abord les effets indésirables. Et maintenant, le traitement aussi, toujours sur le plan psychologique, va travailler sur la motivation de la personne, mais aussi ses pensées, ses intérêts à quitter la drogue. C'est un traitement, une prise en charge qui peut aller à long terme pour accompagner la personne. Ça dépend, ça peut aller souvent 3 mois, 4 mois, voire même 1 an.
D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, si vous avez un dernier mot, des conseils, ce serait quoi à l'endroit de la jeunesse malienne, des personnes qui sont accrochées à la consommation de stupéfiants ou qui sont dépendantes surtout?
Les conseils que nous allons donner surtout en tant qu'acteurs de la santé est qu'aujourd'hui, que les jeunes comprennent, que tout le monde comprenne, la population générale comprenne, les autorités politiques, que tout le monde comprenne aujourd'hui que la consommation des stupéfiants est devenue un problème majeur de santé publique et la prévalence ne fait que s'augmenter. Pur les cas des jeunes enfants qui sont considérés comme l'avenir de demain. Avec ces comportements, je pense que c'est un facteur qui va nuire à la future génération. Alors, le conseil que je donne est que tout le monde, ensemble, contribue à cette mobilisation, comme ce que vous êtes en train de faire. Je sais le nombre de personnes que ces informations peuvent atteindre et chercher à modifier les comportements de ceux qui sont dans ces problèmes. Alors que tout le monde, sans exception, se donne les mains pour aider alors ceux qui sont dans ces problèmes à s'en sortir. Et les consommateurs aussi, précisément, qu'ils sachent que en réalité, c'est un problème qui joue sur non seulement leur santé mentale, mais surtout leur santé sociale. Et c'est un facteur qui nuit à leur avenir. Alors, si ils ont des problèmes, il vaut mieux de chercher ailleurs la solution, à tout moyen, que de chercher refuge dans les drogues. Puisque la drogue ou les stupéfiants ne sont pas des solutions, mais ce sont des facteurs qui compliquent d'ailleurs et qui mettent danger d'ailleurs, qui peuvent mettre même le pronostic vital d'une personne. Donc la drogue n'est pas la solution.
Merci beaucoup, Monsieur Bourama Sangaré.
Okay, merci, Monsieur Maïga, vraiment de nous avoir amené à parler sur ce sujet tant important. Merci beaucoup.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez les programmes de Studio Tamani à travers tout le Mali et sur l'ensemble de nos 85 radios partenaires et nos différentes plateformes, notamment sur Facebook, Twitter et notre site internet.
Merci à M. Bourama Sangaré, psychologue clinicien, et merci beaucoup à vous, chers auditeurs et auditrices. À présent, nous allons souffler un peu en musique. Et c'est à travers notre rubrique Artiste de la semaine. Nous sommes avec qui cette semaine, Mariam?
Nous allons retrouver un artiste du terroir. Il fait de la musique traditionnelle. Je me dis qu'on se dirige vers la zone du centre du pays, précisément à Mopti.
À Bokoré.
Oui. C'est ça, il fait le tour du monde avec son monocorde. Abdoulaye Sissé est natif de Bokoré, dans la région de Mopti. Nommé affectueusement Alaï Bokoré, l'artiste a échangé avec Omar Waigalo.
Vous chantiez depuis quand?
En 73.
J'ai commencé à chanter en 1973 et je suis arrivé à Abidjan en 77.
En 77.
Vous avez commencé votre carrière à Bokoré ou à Abidjan?
Ah, non, donc il est dans le théâtre La Folle.
J'ai commencé à chanter à la Biennale. J'ai fait 2 ans avec la troupe locale de théâtre avant d'aller à Abidjan.
Comment est venue l'idée de créer votre groupe Djamnati? Qui veut dire le bonheur est là.
Aya a composé 1980.
Nous l'avons créé en 1980 à Trècheville, à Abidjan. Et à mon retour au Mali, j'ai acquis des documents et ensuite j'ai fait un album.
Avez-vous fait des tournées?
Voilà.
J'ai fait des concerts au Mali, au Sénégal, en Gambie, en France et une semaine en Espagne.
Donc,
quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre carrière musicale?
J'ai traversé d'énormes difficultés. Même ce vendredi, les membres de mon groupe ont refusé de répondre à une invitation. Ils disent être trop fatigués, car ils dansent et ne gagnent rien.
Nous traversons une crise depuis un moment, surtout au nord et au centre. Quel message avez-vous?
Ce que j'ai à dire, c'est d'appeler tout un chacun à penser à notre passé. Dans le temps, nous vivons en paix et en harmonie. Faisons attention avant de tomber plus bas.
En tout cas, c'est dansant. Dramane, je dis bien, c'est dansant, c'est du traditionnel. Et puis, ça berce. Je sais que beaucoup de vieilles personnes, surtout les gens du centre du pays, aiment ce genre de musique.
De musique. Moi, quand même, ça me rappelle, à l'époque, quand je suivais à la télé nationale des danseurs peul avec des calebas, mais surtout avec des monocordes, je suivais ça et j'étais vraiment content.
Il ne manquait plus que la flûte pour accompagner, parce que les chanteurs peuls aussi font très souvent de la musique avec la flûte à côté.
Alors, c'était bien de retourner un peu voir dans notre terroir, voir ça changer un peu d'air.
Effectivement.
Et c'est ce qui nous mène vers notre dernière rubrique de cette émission, qui est proverbe de la semaine. Mariam.
Et ça dit que si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Tu penses quoi de ce proverbe africain?
Je crois que mes 5 doigts pourront faire bien de choses ensemble. En tout cas, mieux qu'un seul doigt quand même.
Effectivement. Alors, pour apprendre des sages, nous allons écouter l'ensemble des explications données par Tidjane Daou, notable dans la cité des Balanzans, c'est-à-dire Segou Sido Ani Balanzando.
Monsieur Tidjane Daou, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ». Qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, ici à Segou, pour notre compréhension, ça veut dire la solidarité. L'entraide. Nul ne peut se vanter de se passer des autres. Et aucun individu seul ne peut faire quoi que ce soit. C'est dans la société que l'homme évolue. C'est dans la société que l'homme s'épanouit. C'est dans la société que l'homme peut vivre très longtemps. C'est pourquoi Serou Bayan a dit « Nul ne peut se vanter de se passer des autres ». Et il a dit le célèbre adage dans « Sous l'orage ». Voilà. Donc c'est un peu ça. Et contrairement à la société européenne, où l'individualisme prime sur le social. Et la société africaine est fondée en sorte que nul ne peut se vanter de se passer des autres. L'homme n'est rien sans les autres. Tu viens dans leurs mains et tu repars dans leurs mains. Voilà.
Merci beaucoup.
Il était au micro de notre correspondant à Segou, Mohamed Diop Cissé. Je crois que nous retenons plusieurs conseils dans ce proverbe africain, Mariam.
Je mets l'accent sur l'entraide. Je mets accent également sur la coopération entre les individus. Ça enseigne beaucoup de choses, même notre duo. Oui. Une seule personne aujourd'hui ne pouvait pas tenir ce dialogue-là. Il a fallu que nous soyons deux pour égayer également nos auditeurs.
Et ensemble, nous irons loin dans cette émission et aussi à travers d'autres rubriques et d'autres émissions de Studio Tamani.
Effectivement, et cette émission également, c'est grâce à vous les auditeurs qui nous écoutez tous les soirs. Et ça ne peut pas se faire sans votre contribution. Grand merci à vous pour votre fidélité renouvelée au quotidien. Surtout vos messages, vos informations que vous nous envoyez au quotidien.
Alors, sur ces mots se referment ces numéros présentés par Dramane Maïga et
Mariam Maïga.
Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même fréquence. Vous pouvez réécouter cette production et tant d'autres à tout moment sur notre site web www.studiotamani.org.
Merci à vous et vous qui nous suivez partout dans le monde via nos réseaux sociaux. Ne décrochez pas car tout à l'heure, vous aurez la version en Bambara.